Lentement, il gravit les marches jusqu'à la barrière, son sac à dos sur l'épaule. Il avait les jambes de plus en plus lourdes. Il y eut la barrière, surmontée de la grande horloge de la gare. Et au fond, collée dans le coin devant les guichets, comme sous l'effet de la crainte, une femme. Un garçon se tenait à son côté, aussi grand qu'elle. Un dessin d'enfant, arbre et maison, avec deux soleils jaunes par-dessus. Deux soleils qui avaient éclairé un bunker à Stalingrad.
Le manuscrit perdu de Stalingrad, un documentaire de Clément Nouguier, réalisé par David Jakubowiez. Deuxième épisode, réécrire les morts.
Après 8 années de captivité chez les soviétiques, Heinrich Gerlach, l'un des 5000 survivants de la 6e armée allemande, décimée à Stalingrad, débarque à Berlin, où il retrouve sa femme et ses enfants, qu'il n'a pas vus depuis 9 ans. Sa libération tenait à 2 conditions. L'obligation de servir la nouvelle RDA communiste et la confiscation du manuscrit de son roman, soit 600 pages, écrites en prison à propos du destin collectif et de l'abandon de 300 000 hommes. Un manuscrit toujours aux mains des Russes, mais qu'il espère encore récupérer.
Gerlach rentre en Allemagne,
Carsten Gonzel,
à Berlin où il vit,
professeur de littérature moderne.
Il va dans les zones occupées à l'Est pour déposer une demande pour récupérer son manuscrit. Donc il dépose même plusieurs demandes qui restent sans réponse. La raison pour laquelle c'est sans réponse et qu'il ignore, c'est qu'il y a un avis défavorable qui a été émis par les éminences les plus hautes du parti communiste, les proches de Staline, contre son manuscrit. Fin décembre 1950, effectivement, Lavren Tiberia, donc un des 3 hommes forts autour de Staline, avec Malenkov, écrit un texte dans lequel il explique que le contenu du manuscrit sur la bataille de Stalingrad écrit par l'officier Gerlach n'est pas assez antifasciste.
Conformément à la demande du bureau politique du comité central, vous trouverez 6 juin des informations sur le contenu du livre « Éclair lointain, percé à Stalingrad » écrit par le lieutenant de l'ancienne armée allemande, Heinrich Gerlach.
Rapport soviétique, 29 décembre 1950.
D'une manière générale, on peut dire du roman de Gerlach qu'il opère une falsification grossière des événements. L'auteur encourage habilement l'esprit de revanche et calomnie l'Union soviétique. La restitution d'un livre qui diffame le peuple soviétique et fait l'éloge de l'hitlérisme n'est pas opportune.
Quand Gerlach comprend et apprend qu'il ne pourra vraiment pas récupérer son livre qu'il a écrit avec la matière même de son expérience, il décide de le réécrire.
Mais avant d'entamer cette réécriture, Gerlach doit régler un autre problème. Il est de plus en plus suivi dans la rue par des hommes. Pour lui, cela ne fait pas de doute. Les agents soviétiques le guettent. Ils n'ont pas oublié son engagement, celui de travailler pour la RDA. Gerlach décide donc de partir avec toute sa famille à l'ouest, plus précisément à Brac, près de Brême, là où il trouve un poste d'enseignant. Il peut ainsi commencer la réécriture de son roman. Il le doit à ses compagnons morts à Stalingrad. Mais ça n'est pas aussi facile que prévu.
Also Gerlach will...
Donc Gerlach veut écrire son livre une seconde fois, mais il n'y arrive pas, il n'arrive pas à recomposer les morceaux. À chaque tentative de se souvenir, il y a un voile qui se met devant ses yeux et qui l'empêche de se souvenir.
Der Psychiater Dr. Schmitz
Donc il découvre le psychiatre Dr. Schmitz grâce à un article paru dans Quick, qui est un journal illustré populaire de l'époque, dans lequel le docteur relate, enfin décrit les possibilités liées à l'hypnose de se souvenir. Donc Gerlach entrevoit la possibilité de se souvenir grâce à l'hypnose.
Il y a eu beaucoup de critiques sur la pratique de l'hypnose pour retrouver la mémoire, parce que la mémoire étant sans arrêt remaniée, modifié, on s'est aperçu que l'hypnose ne pouvait pas forcément retrouver une mémoire fiable et qu'elle pouvait même être construite.
Jean-Marc Benayem, médecin, hypnothérapeute.
Mais tout de même, elle est utilisée. Mais de quelle manière ? Eh bien, non pas pour retrouver des faits précis, mais plutôt pour replonger la personne dans un contexte qu'elle a vécu et qui va l'inspirer à nouveau. Donc c'est plutôt les sensations qui réactivent quelque chose qui s'était endormi en sommeil dans le cerveau. L'hypnose, c'est toujours une histoire passionnante parce qu'elle monte, si je puis dire, et elle redescend. Elle monte, c'est-à-dire que beaucoup de praticiens l'utilisent, la mettent en valeur, et parfois même l'idéalisent, et elle redescend. Puisqu'on dit « Ouh là là, mais c'est pas très scientifique, on ne comprend pas bien comment ça marche, non, non, il ne faut pas utiliser quelque chose qu'on ne maîtrise pas. » En 1951, c'était le début, tout début de la remontée de l'hypnose, puisqu'elle avait chuté après Freud dans les années 1910, plus personne n'osait l'utiliser. Donc c'est un phénomène, ce docteur Schmitt, de l'avoir conservé dans son art thérapeutique.
Wenn ich jetzt die rechte Hand berühre, gehen beide Arme ganz langsam nach unten.
Dr. Karl Schmitt.
Ganz langsam nach unten.
Séance d'hypnose.
Immer besser und besser.
1960.
Sie schlafen tiefer und tiefer und alles ist vergessen und gar nichts kann stören. Immer besser und besser. Immer ruhiger und ruhiger. Nichts kann stören.
Pour pratiquer l'hypnose, il faut bien entendu que la voix soit plus calme et non pas une voix aiguë qui va à toute vitesse et qui pourrait énerver le patient. Et puis, et là, tu dois dire, voilà, d'accord, c'est compris, il faut que je change ma voix, mon tempo, mon rythme, il faut que je fasse plus grave et puis laisser des temps de silence, voilà, pour que la personne puisse vraiment se laisser guider, porter.
Immer besser und besser. Immer ruhiger und ruhiger.
Et la transe hypnotique se caractérise par je n'essaye même plus de comprendre, de maîtriser, d'analyser, mais je me laisse juste porter par la musique des mots et non pas par le sens des mots. Et cette transe, je crois qu'il avait très bien compris et très bien pratiqué l'hypnose d'une manière très très habile et très intelligente.
Fünfter Kopf ist ganz frei und leicht. Wenn ich sechs sage, sind sie ganz frisch und munter. Sechs aufwachen.
Also Schmitz versetzt Heinrich Gerlach jeweils in Hypnose.
Donc Schmitz met Gerlach sous un état d'hypnose.
Sätze, die sie vorher abgesprochen haben, zum Stalingrad.
Grâce à certaines phrases qui sont induites et sur lesquelles ils se sont mis d'accord au préalable. C'est des phrases en lien avec Stalingrad. Et lorsque Gerlach se réveille, il dit ce qui lui revient à l'esprit. Donc il dicte ce dont il se souvient. Ils avaient également tenté un autre processus. Pendant l'hypnose, il écrivait sur du papier directement ce qui lui revenait en mémoire, mais ils se sont rendus compte que les phrases étaient illisibles et parfois très étranges, donc ils ont abandonné ce processus-là pour vraiment se concentrer sur l'autre méthode, à savoir le mettre en état d'hypnose, le réveiller, qu'il raconte ses souvenirs.
Ça dure ungefähr so meine eigene Erinnerung, ich glaube mal so zwei.
Et toute cette phase durait environ deux heures. Ensuite, il faisait une pause et il continuait.
Das passiert jeden Tag.
Une fois, lors d'un très profond sommeil, j'ai eu la sensation que j'étais sorti de moi-même et que je flottais à une cinquantaine de centimètres au-dessus de mon corps endormi. En même temps, j'avais l'impression qu'il suffirait d'une légère poussée pour me faire sombrer dans l'obscurité totale. Le résultat fut agréable et facile. Parfois, je feuillette le manuscrit lui-même. Je vois la couleur et la texture du papier. Je peux lire des lignes entières et voir très précisément à quelle page est décrite telle ou telle scène.
Quand on lit les techniques utilisées par ce docteur Schmid dans les années 50-60, il fait quelque chose de tout à fait intelligent. Il ne cherche pas à retrouver quelque chose de l'ordre du langage, parce que le langage, c'est encore du cognitif, c'est encore de la maîtrise. Il va dans les émotions. Il le dit clairement d'ailleurs, il va dans la sensation. Donc il propose à son patient d'entrer dans une immersion sensorielle, c'est-à-dire vous êtes dans le camp, malade, vous êtes blessé, dans ce lieu,
déshérité, estropié.
Et petit à petit la personne réactive du vécu. Et c'est comme ça, et c'est à partir de ce vécu que l'écriture a pu reprendre.
Clopinant en s'aidant de bâtons, s'appuyant sur des béquilles de fabrication artisanale, accrochés les uns aux autres en quête de soutien. Ils ont été des hommes autrefois.
Gerlach, so sagt er später.
Et ils ont fait ça pendant plusieurs jours.
80 bis 100 Seiten.
Au terme desquels Gerlach s'est retrouvé avec une centaine de pages de son manuscrit, enfin des notes en tout cas.
Nach Hause fährt.
Une fois de retour à Brague, donc chez lui, il est très optimiste et il pense qu'il pourra reconstituer tout le livre assez rapidement. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypnose a réellement ouvert les vannes de cette recomposition.
Et maintenant, une masse beuglante, bouillonnante, lourde de haine.
Also Gerlach hat auch in späteren
dans ses souvenirs antérieurs et ce qu'on a pu retrouver de ses journaux, il n'a jamais écrit précisément combien il avait récupéré, entre guillemets, de son roman initial grâce à l'hypnose. Il a simplement dit quels épisodes ou quels moments particuliers avaient pu être rappelés à sa mémoire. Ce qui est sûr, c'était que ce sont des pierres d'une mosaïque qu'il a retrouvé grâce à l'hypnose et qui lui ont permis de recomposer le roman dans son ensemble. Stalingrad était déjà derrière lui depuis plusieurs années, donc il y avait une certaine distance qui s'était créée évidemment. Donc il a pu aussi ajouter d'autres épisodes au roman initial en ayant accès à d'autres informations. J'ai pu m'entretenir longuement avec sa fille qui nous a raconté qu'il recevait régulièrement des anciens camarades qui passaient la nuit chez eux. Et sa fille Dorothée disait qu'il nous a ramené la guerre à la maison et pourtant je ne voulais pas en rater un seul morceau. Et son fils m'a raconté également qu'il était régulièrement dépassé par les récits qu'il entendait à la maison.
Stalingrad pour la mémoire allemande de l'après-guerre, à l'ouest en tout cas.
Johann Chapoutot,
c'est
professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne.
Le drame par excellence de la Seconde Guerre mondiale, d'une part parce que c'est une armée entière qui a été liquidée sur 300 000 hommes, 200 000 sont morts sur place et près de 100 000 ont péri en captivité. Il n'y a que 5000 survivants de Stalingrad qui vont revenir en Allemagne. Donc c'est la catastrophe militaire, la catastrophe humanitaire, la catastrophe humaine par excellence, d'autant plus forte et d'autant plus violente que c'était censé être une grande bataille décisive pour la conquête de l'URSS et une grande victoire. Ça a été tout le contraire, et ça a été tout le contraire à la puissance 10.
Automne 1957. 6 ans après avoir entamé la réécriture de son roman, aidé par les séances d'hypnose du Dr Schmitz, Heinrich Gerlach assiste enfin à la publication de son témoignage. Non plus sous le nom original d'Éclair lointain percé à Stalingrad, mais avec un titre lapidaire. L'armée trahie.
Der Roman kam, das ist für damalige...
Le livre est tiré à 10 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour l'époque. Les 10 000 exemplaires sont vendus très rapidement. L'éditeur en chef a même dit que c'était la première fois qu'ils écoulaient aussi vite autant d'exemplaires et surtout qu'ils reçoivent si vite des demandes de cession de droits pour l'étranger. Ensuite, il faut dire que Gerlach est vraiment un des rares à avoir vécu la bataille de Stalingrad du premier au dernier jour. Tous les autres textes qui en parlent, qui relatent la bataille de Stalingrad, le font sur base de ce qu'ils ont entendu ou de témoignages, notamment Théodore Plivier, qui fait paraître un livre dénommé Stalingrad, n'a pas été sur le champ de bataille. Donc c'est vraiment... le caractère authentique du livre de Gerlach qui lui confère ce statut d'exception dans les années 50. Mais vraiment, je pense que pour la majorité des lecteurs, c'est l'histoire traumatique d'une grande armée jetée au lion qui a été décisif dans la réception du roman.
Le succès est donc total. Les critiques saluent la rigueur et la logique de l'auteur, sa capacité à rendre compte de manière authentique les affres d'un destin collectif. Le roman reçoit même le prix littéraire italien Bacarella, précédemment décerné au Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway et au Docteur Jivago de Boris Pasternak. Mais ce succès va vite occasionner une affaire inédite dans l'histoire du droit et de la médecine.
Nachdem der Roman bekommt,
Après la parution du roman, Schmitz envoie un courrier à Gerlach où il lui rappelle leur engagement. Selon lequel 20% des honoraires du roman doivent lui revenir. Gerlach est épouvanté. Il ne se souvient de rien. Alors Schmitz lui envoie le contrat qu'ils ont signé à l'époque. Gerlach répond à cela qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il était en état de, entre guillemets, d'obéissance, enfin qu'il était sous emprise. La presse s'en mêle. Il y a des détracteurs et des contradicteurs. Et dans le camp des gens qui soutiennent Gerlach, il y a notamment quelqu'un qui prend la parole et qui dit que si c'était le cas, il faudrait qu'une sage-femme demande un pourcentage si un enfant devient plus tard un musicien célèbre. Schmitz réagit publiquement et il explique qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux comparaisons.
Schmitz réagit Et
notamment qu'il n'y avait pas de rapport d'un docteur à son patient, puisque Gerlach n'était pas malade, que son souhait c'était de réactiver des souvenirs et qu'il voulait se souvenir pour des raisons mercantiles et pas pour des raisons de santé.
On peut faire juste l'hypothèse, mais bon, c'est une hypothèse, que finalement... le médecin était lui aussi en transe hypnotique. C'est-à-dire que la relation était tellement forte et intime et cette complicité était tellement intense que lui aussi s'est senti plongé dans les affres de Stalingrad et lui aussi il a mis du cœur là où il fallait pas mettre de cœur et être juste technique. Et donc il s'est senti lui aussi comme co-écrivain en quelque sorte. Mais bien sûr, je crois que si personne n'a accédé à sa demande, c'est que lui aussi, peut-être, n'était pas exactement à sa place.
Le différend est finalement réglé à l'amiable en 1961, avec une somme de 9500 marks versée au docteur Schmitz. Celui-ci meurt en 1967. Heinrich Gerlach, quant à lui, écrit une suite à son roman, intitulé « Odyssée en rouge », paru en 1966, et relatant le parcours des prisonniers allemands au sein des camps soviétiques. Dans ce genre d'histoire, tout s'arrête généralement à la mort du protagoniste. Si Heinrich Gerlach meurt en 1991, à l'âge de 82 ans, son récit fascine l'historien Carsten Ganzel.
Pour le cas précis de Gerlach, je savais qu'il y avait une version antérieure. Donc j'étais déjà au courant de ce que je cherchais. Et à l'époque, j'avais dit à mon collègue, si un jour on le retrouve, vraiment, ce serait une découverte incroyable.
Désireux de retrouver son manuscrit original, celui confisqué par les soviétiques en 1950, il se rend 62 ans plus tard, le 14 février 2012, dans les archives militaires de Moscou, avec son collaborateur, Norman Achtler.
Donc le 14 février 2012, on a attendu environ une heure, ce qui est à peu près normal quand on commande des archives. Mais pendant tout ce temps-là, je me disais, ça va se passer comme d'habitude. On va venir me voir, venir me trouver, et on va me dire, il devrait être là, mais on n'a pas pu mettre la main dessus.
Wir wissen auch nicht warum. Und dann nach einer Stunde,
et par miracle, après une heure, ils sont arrivés avec tous les documents commandés, dont ce gros et épais manuscrit sur Stalingrad. Et là, je dois dire, c'est un moment incroyable de bonheur, de hasard. Surtout quand on sait ce que ça implique. L'histoire de ce livre. Et même maintenant, en vous le racontant, quand j'étais aux côtés de mon collègue, c'est une émotion intense qui nous a envahis.
Carsten Ganzel vit donc un rêve d'historien. Pouvoir comparer deux versions d'un même document, écrites à 10 ans d'intervalle.
Ja, das ist eine spannende Frage, danach zu suchen, in welcher Weise sich diese beiden Fassungen unterscheiden.
Alors moi, j'ai été étonné de me rendre compte à quel point les deux versions se ressemblent au premier abord.
Identisch, aber wenn man dann genauer hinschaut,
mais à y regarder de plus près, dans le détail, on voit des différences notables, notamment que la deuxième version met plus en avant le mythe du soldat victime. Les titres, évidemment, sont différents. La version originale présente les actions et la suite des événements de manière beaucoup plus détaillée et précise. Et le désespoir ou le manque d'issue de la situation est présenté de manière beaucoup plus frontale et sans commentaire, contrairement à la version ultérieure. Les deux romans, à la fois la version originale et la version recomposée, s'achève sur une citation. Hitler est avec deux officiers et on lui apprend que les premiers sacs de poste sont arrivés de la Turquie avec les lettres des prisonniers de
Stalingrad.
Les premières lettres des prisonniers de Stalingrad venaient d'arriver en Allemagne. Cela montrait, dirent les deux hommes au cours du déjeuner, que de nombreux combattants de Stalingrad étaient encore en vie, et ils parlèrent du grand soulagement de leurs proches. Hitler leva les yeux, son regard les réduisit au silence, et il répondit :
les
hommes de Stalingrad n'ont rien à dire. Les hommes de Stalingrad doivent être morts.
Les combattants de Stalingrad doivent être morts.
On peut comprendre les tentatives littéraires ou médiatiques après 1945 de présenter la Wehrmacht en action à Stalingrad comme étant victime du régime plutôt que agent et fer de lance du régime. Si la 6e armée avait été victorieuse, il n'y a évidemment aucun doute qu'elle aurait été aussi atroce, impitoyable et sans concession que sur les autres champs d'opération vis-à-vis des ennemis militaires mais également de la population civile. Mais les 300 000 Allemands qui ont été abandonnés en rase campagne comme cela, ou en rase ville plutôt, par le commandement et par Hitler, sont bel et bien des victimes d'un jusqu'au boutisme, d'une radicalité de la violence décidée par le haut commandement, et par ailleurs d'un mépris total et, comme on dirait aujourd'hui, assumé de la vie humaine et de la vie humaine de ses propres soldats allemands, par le haut commandement.
Si vous me demandez ce que ça a pu avoir comme effet sur moi, évidemment, quand j'ai eu connaissance et que j'ai lu le destin terrible de ceux qui ont vécu la bataille de Stalingrad, je l'ai toujours lu chez moi ou à mon bureau, donc il y avait une distance entre moi et ces événements. Mais quand même, il y a quelque chose qui nous atteint. C'est avant tout que c'est un roman contre la guerre. Ça nous rappelle à quelque chose du passé qu'on a peut-être oublié. Et pour moi aussi, pour ma génération, qui sont les enfants ou les arrière-petits-enfants de cette génération qui a fait la guerre, on peut se souvenir et commencer à comprendre de ce que ça a réellement été, à quel point ça a été une guerre d'extermination contre l'Est aussi, et que ceux qui décident des guerres ne sont pas ceux qui emportent les conséquences dans leur corps et dans leur destinée. Puisque ce sont surtout les pauvres R qui sont sur le front qui en font les frais. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit. Ce sont les jeunes gens qui disparaissent au front pendant que d'autres décident de la guerre.
C'était Le manuscrit perdu de Stalingrad, un documentaire de Clément Nouguier, réalisé par David Jakubowiez.
On pourrait ajouter que le roman de Gerlach, dans la version originale, devrait être offert aujourd'hui à tous les hommes et les femmes politiques pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la guerre vraiment.
Avec Karsten Gansel, Jean-Marc Benayem, Johan Chapoutot, traduction Katia Flouest, lecture Yannick Choira, prise de son Fabien Gosset, Élise Le, Ludovic Asselot, mixage Bastien Varigaud, attaché de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Merci à Josépha Lebrun, Benjamin Orgeret, à Victor Zedner et Norbert Bieber.